regardez, donc on a, c'est l'actualité culturelle hein, qui est des fois un peu plus dense. Et pourtant, on est pendant les vacances scolaires, mais il y a des événements qui ont lieu. Alors, ce qui fait qu'on a aujourd'hui, on aura trois invités. Alors, le troisième invité, c'est Jean-René Berlioz, photographe, à qui je remercie parce que je l'avais programmé entre guillemets, hein, c'est pas mon style. En même temps que Marie-Agnès Charpin, je me souvenais plus, j'étais un peu débordé à la même heure. Donc ça, voilà. Alors, il va venir nous parler. On l'avait annoncé. Il fait une exposition fort intéressante de photographie et qui a lieu dans un café qui s'appelle les Vengeances Tardives. Voilà, 76 cours Gambetta. Alors, on lui laisse tout de suite la parole. Il va nous dire d'abord le sujet de cette exposition. Enfin, on en avait déjà parlé, et puis comment c'est venu, enfin, etc. Alors, c'est à vous.
Voilà, alors pour me présenter rapidement, Jean-René Berlioz, donc, je pratique la photographie depuis 1999 et j'ai développé plusieurs projets, en fait, entre Paris, Lyon, Grenoble et Arles durant les rencontres photographiques. Et j'en arrive donc à la présentation de cette exposition qui a pour origine une commande du musée du centre de l'histoire et de la résistance et de la déportation situé dans le carré Berthelot, qui a pour origine en fait la restructuration de la partie permanente du musée qui eut lieu au sortir des journées européennes du patrimoine de 2011 et dont l'ouverture s'est faite en, le 16 novembre 2012. Voilà. Donc les travaux ont duré plus d'un an. Donc en mai 2011, la direction du musée, soucieuse de faire ressortir en fait la mémoire du lieu, a demandé à la section photo de l'association culturelle de la Courlie et du Grand Lyon nommée la Gourguillonnaise d'effectuer un reportage photographique. Voilà, donc cette section photo animée et dirigée par Monsieur Guy Marlot nous a permis de coordonner avec le musée cette exposition. Au final, 14 photographes amateurs ont répondu présents et le travail s'est soldé par un ensemble de séries qui ont été exposées en résonance avec les journées du patrimoine 2011.
Et vous avez voilà. été pris tous les 14, tout le monde a été pris.
Donc tout le monde, voilà. Oui, oui. C'était un travail collectif à l'origine. Donc en ce qui concerne mon travail personnel, j'ai réalisé ce travail sous la forme d'un conte apocalyptique, en quelque sorte, me mettant en scène, faisant ressortir donc un personnage sous forme de revenant, me mettant en scène, de l'entrée jusqu'à la sortie du musée, évoluant donc à travers les différents volumes du lieu. Voilà. J'ai voulu effectuer cette démarche pour m'éviter de tomber dans une trame purement descriptive et permettre une liberté d'interprétation au regardant qui pourrait alors se faire son idée de la série elle-même et de tout ce qui pouvait y être attaché en fonction de sa sensibilité. Voilà. Ça me permettait également de confronter deux époques, le présent et le passé. Le présent à travers le musée lui-même, puisqu'on reconnaît bien sûr les caissons lumineux, les textes explicatifs, ne serait-ce que les systèmes de climatisation sur les murs, etc., pour ne pas duper, et en même temps, pour d'autre part, confronter le passé par le lieu lui-même, qui est servi de siège à la Gestapo, administré sous le commandement de Klaus Barbie, entre mars 1943 et mai 1944. Voilà.
Alors, dans le café, là, vous avez 11 photographies. Hein. C'est du noir et blanc. Vous nous redites le 30-40, non ?
Voilà, c'est du noir et blanc. Il y a 11 photographies que j'ai réalisées, en fait, de la fabrication, c'est-à-dire de la prise de vue au montage à la mise sous passe-partout. Noir et blanc sur support baryté argentique au format 40-50, passe-partout inclus. Donc voilà, la prise de vue, le tirage en laboratoire est effectué par mes soins également, ainsi que le découpage des encadrements des passe-partout.
Et vous aviez d'autres photos, vous en aviez plus au musée de la déportation de la résistance, vous aviez, ou si c'était les mêmes photos?
Alors c'était les mêmes photos, certains inédits sont venus compléter la série. Et en fait, je compte au final inscrire cette série dans un projet plus large, dont l'aboutissement serait en fait l'édition d'un livre dans lequel les photos seraient reproduites, et effectuée en partenariat avec un jeune écrivain lyonnais du nom de Philippe Josserand, qui écrirait une nouvelle, qui accompagnerait donc les photos d'une nouvelle. Voilà.
Qui n'était pas apparenté ou peinte à l'écrivain Josserand, non?
Je ne pense pas.
Oui, il habitait pas bien loin, mais il est décédé l'an passé. Alors, il était fonctionnaire, mais pour se faire plaisir, donc il peignait, il écrivait, et ça avait été le fils du sculpteur Louis Josserand, qui était décédé, lui, il y a 30 ans en arrière.
D'accord.
Voilà. Et alors là, par exemple, pour une exposition, là, vous avez 11 photographies, ou comment dire, il y a du déchet, il y a des photos que vous ne mettez pas, que vous dites, tiens, je les ai ratées.
Alors, ça a été...
C'est très difficile de faire une sélection, des fois.
Oui, il faut savoir que, disons, moi, ma pratique, purement, quasiment, exclusivement en argentique. Donc, il est vrai que dans le musée, pour chaque mise en scène, a été assez complexe et m'a demandé un nombre de photos assez considérable, dans la mesure où je n'avais pas d'écran, à la différence du numérique, des appareils numériques qui permettent de pouvoir visualiser le travail sur l'instant. Moi, ça n'a pas été mon cas, et donc j'ai effectivement un nombre considérable de photos posées sur donc les temps de pose. Les temps d'obturation et de pose étaient faits au début un peu hasardeusement, puisqu'il fallait qu'ensuite je développe mes planches contact pour pouvoir avoir un aperçu de ce qui se passerait. Après, j'ai commencé à me faire une idée en fonction des premières images, des temps de pose nécessaires. Donc, finalement, j'ai réussi à développer la série au fur et à mesure avec cohérence. Mais donc, pour la pratique elle-même sur la prise de vue, je me mettais donc en scène, ce qui signifiait que j'étais avec des temps de pose très longs, comme il y avait très très peu de lumière dans le musée. Il fallait y adapter. Et puis, avec un retardataire de quelques secondes qui me permettait de choisir, de sélectionner la pose et de faire ressortir les états d'âme, en fait, de mon personnage qui symbolise la tragédie à travers le musée, donc lui-même, en termes de présent, et du lieu lui-même, en termes de passé par rapport à ce qu'il a été.
Et le temps de pose, il dure combien de temps alors? Ça dépend de ce que vous prenez. Alors,
le temps de pose durait en général 30 secondes. C'était extrêmement long, dans la mesure où, encore une fois, il y avait très très peu de lumière. Moi, il fallait que je crée un flou en même temps sur ma personne pour me créer un décalage entre le présent et le passé. Donc oui, on peut considérer 30 secondes. Et puis l'avantage d'avoir des temps de pose très longs, ils étaient d'autant plus longs qu'en réalité, techniquement, hein, bon, ça va pas forcément intéresser, mais le diaphragme de l'appareil photo, il fallait qu'il soit extrêmement fermé pour avoir une netteté parfaite au niveau de l'arrière-plan et justement justifier un effet de flou, d'autant plus, disons, imprimé sur ma personne. Voilà.
Et alors, quand vous avez fait vos photos, il y avait d'autres photographes qui étaient là le même jour, ou vous étiez convoqué individuellement pour pas vous concurrencer?
Non, on venait en fait. Alors, c'est vrai que l'effet de... C'est marrant que vous en parliez, parce que l'effet de concurrence, en réalité, il n'y avait pas de concurrence, bien sûr. Mais on était indirectement, on était forcément exposé, entre guillemets, au travail de l'autre. Alors, le plus difficile, c'était de justement ne pas se laisser influencer par le travail de l'autre. Voilà. C'est à la limite, je dirais, c'était vraiment la petite chose, le petit détail important, sachant que après on venait à l'heure qui nous convenait, on pouvait effectivement très bien travailler dans les mêmes espaces à telle ou telle heure, voilà.
Mais et tout le monde a fait du noir et blanc? Toutes les photos sont noir et blanc? Ou s'il y en a qui ont fait de la couleur
Non, on était très peu. En réalité, je crois qu'on devait être deux ou trois à avoir fait des photos en noir et blanc. La plupart ont fait de la couleur. Et de mémoire, tout le monde a dû travailler en numérique. C'est vrai que le grand avantage du numérique, encore une fois, c'est de pouvoir visualiser son travail sur l'instant, ce qui n'est pas négligeable en termes de gain de temps. Voilà. Mais bien sûr, en argentique, on peut arriver à un résultat tout à fait probant. Encore une fois, ça demandera du travail et puis du temps, puisqu'effectivement, il faut travailler en laboratoire. Et puis après, tout dépend également de l'encadrement, de la scénographie, je dirais, qu'on veut mettre en place pour sa propre série. Voilà.
Alors, donc, ça vous a pris combien de semaines, de mois pour faire ces...
Le travail avait été commandé en mai 2011 pour être exposé pendant les Journées du Patrimoine, les Journées Européennes du Patrimoine de mai 2011. Il y avait d'ailleurs un petit concours à cet égard. Chaque visiteur pendant les Journées du Patrimoine votait pour sa série préférée. Ça, c'était la petite anecdote. Ah, oui. Et puis, mais on avait donc du coup juin, juillet, août, sachant qu'il y avait des périodes de congés qui facilitaient pas les choses. On va dire, oui, trois mois à peu près, pour donc vraiment de la prise de vue, de la, enfin, de même de faire